BFM Business. Good morning weekend, Fabrice Lundy.
Bonjour à tous, on est ensemble ce long week-end du 8 mai jusqu'à 10h. C'est Good Morning Weekend pour revenir sur toute l'actualité de la semaine. On a beaucoup parlé de la Grande-Bretagne, bien entendu. La première partie donc avec Benaoud Abdelhaim. Bonjour Benaoud.
Bonjour, bon week-end.
Éditorialiste économique à BFM Business, Philippe Thilly nous accompagne. Bonjour Philippe.
Bonjour et bon week-end.
Président fondateur de son école pour dirigeants d'entreprise Pergamon Campus, François Hesbourg.
Good morning weekend.
Voilà, Good Morning Weekend. Conseiller spécial de la Fondation pour la Recherche Stratégique à la une, évidemment. Et on y consacrera aussi une grande partie de la seconde moitié de Good Morning Weekend, notamment avec Jean-Luc Sauron tout à l'heure à 9h. C'est donc la victoire surprise parce que les sondages prévoyaient une grande incertitude. Donc la victoire éclatante de David Cameron aux élections britanniques qui obtient la majorité au Parlement, le conservateur qui va donc pouvoir rester au 10 Downing Street.
C'est clairement une nuit très importante pour le Parti conservateur. Nous avons eu un résultat positif après une campagne positive concernant le sauvetage de notre économie, sur la création d'emplois. Il était question des 5 dernières années, mais là surtout des 5 prochaines années.
Alors, nette victoire Benaoud Abdelhaim, à quoi il doit sa victoire ?
À sa détermination et au fait que, collectivement, commentateurs, journalistes, analystes, etc., se sont laissés intoxiquer par leur propre projection de leur volonté de voir ce pouvoir conservateur ébranlé, en quelque sorte. Parce que effectivement, la surprise est quand même très importante. Le parti travailliste est balayé. Il faut voir que le ministre des Affaires étrangères de Ed Miliband, s'il avait été Premier ministre, a été battu par un candidat de 20 ans en Écosse, etc. Il y a un tel écart avec les pronostics initiaux que je me garderai de faire le malin ce samedi matin.
Pourquoi sondeur journaliste aurait-il souhaité la défaite de David Cameron ?
En quelque sorte, il y avait de cela parce qu'il a fait une mauvaise campagne au départ aussi, et donc voilà, il y a aussi ça, peut-être la volonté d'une alternance.
Mais François Hesbourg, on voit donc, on annonçait un écart extrêmement faible, une période d'incertitude. La bonne nouvelle ce matin, et vous l'avez dit dans le FT, hein, le pays va pouvoir être gouverné.
Le pays va pouvoir être gouverné, ça c'est la vraie surprise, hein, parce que c'est ce qui n'apparaissait absolument pas dans les sondages. Mais un petit mot sur les sondages. D'abord, les Britanniques adorent faire mentir les instituts de sondage. C'est une habitude. Les plus anciens se souviendront qu'en 92, le jeudi, on annonçait la victoire des travaillistes, et le vendredi, c'était les conservateurs. Et largement en plus. Pas un petit écart. Et ils sont coutumiers du fait. Deuxième chose, les sondages ont été d'une constance. Ils n'étaient pas du tout incertains, les sondages. Les sondages n'ont pratiquement pas varié d'un poil.
Victoire incertaine, c'est ça que je voulais dire. Exactement.
Voilà, pendant un mois, ils n'ont pas bougé. Et enfin, c'est pas le score en voix du parti conservateur qui est surprenant, parce que ce score est un tout petit peu plus élevé que celui prévu par les sondages, mais pas de beaucoup. La vraie surprise, c'est le laminage, le balayage du Parti libéral-démocrate, qui perd les 6/7 de ses députés. Ça, alors là, personne ne l'avait prévu. C'est l'écrasante victoire des Écossais. Et c'est enfin la contre-performance du UKIP, du parti anti-européen. Et alors pourquoi ? Eh bien, à cause de l'Écosse. Cameron a gagné parce qu'il a été constant, vous parliez de détermination il y a quelques instants, il a été constant dans ses messages, et l'un des principaux messages, c'était le danger du SNP.
Ah, du SNP en
Écosse. Du parti écossais. Vous voulez être de bons Britanniques, eh bien vous votez pour les conservateurs, vous ne votez pas pour UKIP, même si vous avez envie de voter pour UKIP. Et ça a marché. Et donc, on sait maintenant qui est le Premier ministre, c'est le même. On sait qu'il sera là pour 5 ans, parce qu'il n'y a pas de dissolution dans le système britannique depuis 2010. Et ce qui va poser un autre problème, c'est que dans les négociations européennes, Cameron ne pourra pas imposer facilement la discipline au plus dur. parce que les plus durs partie, ouais, des députés n'ont pas à craindre une dissolution. Et les Français qui ont l'habitude des majorités étroites qui rendent plus facile la prise en main des députés récalcitrants, eh ben non, là les députés récalcitrants, ils pourront récalcitrer autant qu'ils voudront.
Alors il n'y a peut-être pas forcément les mêmes. On verra ce qu'il va faire justement de sa victoire dans un instant. Philippe Tibi avec nous, Pergamon Campus.
Je crois, enfin, il faut toujours se méfier dans les élections britanniques puisque le système électoral donne une prime au premier arrivé. Et en fait, on voit que c'est, il n'y a pas une véritable victoire idéologique en voie puisque le parti travailliste gagne 2%. Le Parti conservateur gagne 0,5%. Donc il y a un raz-de-marée du point de vue des sièges, mais on ne le retrouve pas dans les voix. Et je crois que si on veut tirer une conclusion, c'est que les peut-être prématuré aujourd'hui, mais c'est que les conservateurs gagnent sur l'économie car leur programme est cohérent. C'est la continuation de ce qu'ils ont fait et ils gagnent sur le leadership. Je pense que c'est une leçon qui pourrait être, c'est-à-dire la qualité, l'aura personnelle d'un Cameron par rapport à celle plus défaillante de Miliband. C'est, je pense, une leçon qu'on peut tirer d'ailleurs sur un certain nombre d'élections en Europe aujourd'hui.
Le pays se porte bien, vraiment, économiquement?
Non, le pays, c'est comme la sortie de crise dans les pays aux États-Unis, en Angleterre est un peu similaire. C'est-à-dire qu'il y a une croissance supérieur à d'autres dans d'autres zones occidentales. Il y a peu de chômage, mais il y a des salaires qui sont comprimés partout et il n'y a pas une population qui est franchement heureuse. La différence, c'est qu'aux États-Unis, le pouvoir, en tout cas le parti de M. Obama, a perdu, alors qu'en Grande-Bretagne, il gagne. Et je crois que c'est aussi lié au fait que Ed Miliband a choisi une stratégie qui ex-post est désastreuse, c'est-à-dire qu'il a il est allé dans le sens de l'austérité ou d'une certaine austérité, réduction budgétaire, tout en refusant de faire alliance avec le SNP, qui est un parti de gauche, un vrai parti de gauche. Et la défaite électorale du parti travailliste, elle a lieu en Écosse. Donc c'est là où il perd de façon claire. Quand on regarde les sièges, là où ils vont, les sièges qui ont été perdus c'est des sièges qui ont été perdus en Écosse. Donc je crois qu'il y a, quand on est européen continental, une des leçons qu'on peut tirer, c'est que l'économie ça compte, mais que le leadership ça compte, et ça compte probablement plus parce que c'était une des faiblesses bien connues de
et le fait d'avoir pu imposer comme ça les réformes aussi, ça compte.
Oui, c'est d'avoir assumé tout en ayant, et je pense que c'est pour aller dans le sens de François, le problème de Cameron aujourd'hui, c'est que son discours a été teinté, contaminé entre guillemets par celui de UKIP. Donc le discours anti-immigrant européen d'ailleurs, la renégociation de la position dans l'Union européenne, c'est compliqué, d'autant plus que s'il va dans ce sens, les demandes d'un référendum en Écosse augmenteront. L'Écosse est vraiment séparée du reste du Royaume-Uni aujourd'hui.
Ouais, le SNP qui réalise quasiment le grand chelem donc en Écosse, à deux ou trois sièges près, puis Farage qui a été battu dans sa circonscription. Un mot, François Hesbourg, parce que je voudrais qu'on parle aussi du fameux référendum promis par Cameron. Allez-y, François.
Absolument. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Philippe sur le leadership et la clarté du message. Et ça, je crois, ça a été tout à fait crucial. Et je suis plus dubitatif sur l'économie. Je pense que Cameron a gagné malgré l'économie et non pas grâce à l'économie. Les Britanniques ne profitent pas et n'ont pas le sentiment de profiter du tout de la reprise. Il y a énormément de mécontentement et ça se retrouve dans le faible pourcentage en voix du Parti conservateur. Encore une fois, il n'y a pas une irruption du Parti conservateur. Et ce qui est vrai aussi, c'est que le Parti travailliste s'est trouvé cornérisé en Écosse. Il ne pouvait pas jouer avec les SNP, parce que sinon, il était accusé par les conservateurs de détruire le Royaume-Uni, ce qui est quand même une accusation lourde, et qui aurait été plausible en plus. Et donc, il a joué contre un parti de gauche, qui a chassé sur ses propres terres. Et résultat, il perd les élections. Et voilà ce qui est arrivé. L'économie a été un élément, paradoxalement, je crois, secondaire.
Alors, dans la presse britannique hier, par exemple, cette une du Daily Express, maintenant, donne-nous un vote sur l'Union européenne. Ben Aoud Abdedaïm, ce fameux référendum sur le maintien ou non de la Grande-Bretagne, du Royaume-Uni dans l'Union européenne, promis en 2013. Il va être obligé de le faire cette fois, David Cameron.
Ah là, il y a la pression de son propre camp est trop importante pour qu'il ne le fasse pas. Bon, c'est dans 2 ans, donc il a le temps de, on a le temps de voir venir les choses. Mais maintenant, ce sont les continentaux, c'est-à-dire Paris, Berlin, Rome, qui vont devoir se prononcer, parce que jusqu'ici, ils ont été d'une prudence, d'une prudence extrêmement importante à l'égard de ce sujet. Mais maintenant, ils vont devoir prendre position. Et puis, les Britanniques vont aussi se rendre compte jusqu'où ce référendum peut les mener. Parce que le Royaume-Uni, en 2017, après ce référendum, ça se résume à l'Angleterre tout court. C'est une autre aussi possibilité, sachant que, encore une fois, les Écossais, les Gallois ne sont pas pour une sortie de l'Union européenne. Donc ce sont beaucoup, beaucoup de sujets qu'aura à régler ce gouvernement conservateur.
Alors, 2015 plus 2, 2017, il va se passer des choses en 2017. Hein, et tout ça, évidemment, va rentrer en collision, François Hesbourg, ce référendum britannique, l'élection française, élection allemande, je crois, également.
Élection allemande, également.
D'où l'intérêt de l'obligation, comme le dit Ben Aoud Abdedaï, mais ce que vous dites dans le FT, que chacun, les partenaires européens, se positionnent une bonne fois pour toutes sur ce référendum.
Oui, parce que le vrai fait de cette élection, c'est que le référendum est passé du stade d'hypothèse au stade d'une réalité. Les Français, jusqu'ici, étaient dans la posture. On faisait des blagues plus ou moins drôles sur le tapis rouge qu'on allait dérouler pour attirer les investisseurs étrangers qui ne voudraient plus investir dans un Royaume-Uni quittant l'Union européenne. Il va falloir qu'on sorte du registre des plaisanteries au registre de... Et là, en fait, qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour convaincre les Britanniques de rester dans l'Union, ou est-ce qu'on préfère, somme toute, qu'ils partent? Il va falloir que, dans notre tête et dans notre politique, on réponde à ce double question subsidiaire. On fait ça avec l'Allemagne ou contre l'Allemagne? Parce que l'Allemagne, elle, est déjà sortie de la posture. Elle veut clairement que les Britanniques restent dans l'Union. Ils sont prêts à aller plus loin, du moins pour l'instant, que nous, pour aider Cameron en la matière. Et puis, alors, troisième question, c'est: est-ce qu'il faut aller vite ou est-ce qu'il faut aller lentement? Aller vite, c'est-à-dire négocier dans les 3 mois qui viennent, et peut-être même sur la base des décisions préliminaires au Conseil européen du mois de juin, de manière à ce que Cameron et les Français et les Allemands ne soient pas plombés par la négociation en 2017.
Pendant la campagne.
Parce que pendant la campagne présidentielle en France, vous imaginez ce qui va se passer s'il n'y a toujours pas eu d'aboutissement avec les Anglais. C'est à qui sera le plus dur dans l'élection pour dire: moi, je ne brade pas les intérêts du pays pour faire plaisir aux Anglais. Et donc, est-ce qu'on va vite ou est-ce qu'on va lentement? Et tout ça, il faut y songer rapidement. Il ne va pas falloir passer 6 mois à se faire des nœuds au cerveau. Les Français vont devoir réfléchir.
Philippe Thiby, puis je pense qu'on y revient dans un instant. Un mot, s'il vous plaît, Philippe.
Non, mais je pense que ce référendum, moi, je considère que c'est une bonne nouvelle, parce que le statu quo en Europe est un statu quo mortifère. C'est-à-dire, l'Europe est dans un corset aujourd'hui. On le voit dans la négociation avec la Grèce. On le voit sur d'autres sujets. C'est-à-dire qu'on a un Gulliver empêtré. Et le fait qu'il y ait une renégociation avec un grand pays va permettre d'ouvrir les fenêtres et va permettre de poser des problèmes. Moi, personnellement, je pense que le pire danger pour l'Union, c'est de ne rien faire et de voir ses soutiens s'étioler dans chacun des pays, de voir des partis dits souverainistes gagner en importance dans de nombreux pays. Et donc, il va y avoir une grande confrontation et je pense que c'est utile.
On va se retrouver dans un instant, c'est Good Morning Weekend, peut-être qu'on parlera encore un petit peu de la Grande-Bretagne, on va évoquer aussi la Grèce, hein. Oui, sortie de la Grande-Bretagne peut-être, sortie de la Grèce, là la question est peut-être plus urgente, plus prenante dans les prochains jours. À tout de suite sur BFM Business, on revient vite.
BFM Business, Weekend. Good Morning Weekend, La double page info du week-end, Fabrice Lundy sur BFM Business.
Et on continue ce samedi matin, donc avant 8h30, on retrouvera Anne-Sophie Balbir, bien sûr, pour les prochaines infos. C'est Good Morning Weekend. Encore un petit mot quand même sur l'élection britannique, hein, et on y reviendra tout à l'heure à 9h avec Jean-Luc Sauron, quand même, ce triomphe de David Cameron, le parti conservateur, contre tous les pronostics émis par les sondages. Et la défaite du camp travailliste, la défaite d'Ed Miliband, qui a démissionné, vous le savez, instantanément, hier matin, de la présidence du parti travailliste. Ben Aoud Abdedaïm.
Oui, c'est la différence entre la démocratie britannique et certaines autres sur le continent. Lorsqu'un chef de parti perd et est sorti par la porte, il n'essaie pas de revenir par la fenêtre. Je ne fais référence, bien sûr, à personne ici.
Bien entendu. Encore un mot, juste, François Hesbourg, sur la victoire de David Cameron. Qu'est-ce qu'il va en faire, justement? Est-ce qu'il va pouvoir redonner un petit peu plus de vigueur, d'influence au Royaume-Uni, qui en avait un petit peu perdu ces derniers temps?
Depuis août 2013, il y a une date très précise, et les Britanniques sont grosso modo sortis des affaires mondiales. C'est au moment où la Chambre des communes refuse d'autoriser le gouvernement Cameron à participer au bombardement qui était alors programmé de la Syrie par la France et les États-Unis. Et depuis lors, qui n'aura pas lieu, les choses sont allées de mal en pis. La question maintenant est de savoir si Cameron, un, voudra changer cet état des choses, et deux, s'il le pourra, parce que s'il est plombé avec une négociation de 2 ans sur l'Europe et des chicayas sans fin avec des nationalistes écossais à la fois très puissants et très malins, ils sont très très rusés, hein. Ils sont des bons, hein. Et il n'aura pas beaucoup le temps de faire de la politique étrangère. Alors vous me direz, peu importe. Eh bien si, importe, ça importe, parce que la France et le Royaume-Uni sont les deux seules puissances moyennes qui se comportent comme des puissances ayant une vision et des intérêts globaux, mondiaux. Faire ça à deux, ça passe encore dans le monde où on existe. Mais si on se retrouve vraiment tout seul, et là, ça devient beaucoup plus compliqué pour nous. Donc nous, notre intérêt, c'est que les Britanniques reprennent pied. Et ça, c'est une des grandes inconnues du résultat de cette élection.
Alors Brexit, sorti ou pas du Royaume-Uni de l'Union Européenne. Grexit également, sorti ou pas de la Grèce, de la zone euro, de l'Union Européenne. Enfin bon, dans un autre genre, hein, la question elle se pose aussi, hein, vis-à-vis de la Grèce, qui suscite bien toujours un certain trouble sur les marchés actions. On a vu le CAC 40, donc eh bien passé sous les 5000 cette semaine. Après-demain lundi, important Eurogroupe à Bruxelles pour discuter du versement à la Grèce d'une nouvelle tranche de près de 7 milliards. Les créanciers, ils attendent des réformes de la part du pays. Alors, est-ce qu'on va trouver un accord, Philippe Thiby, parce que Athènes apparemment pose ses conditions. Pas question de mettre en place de nouvelles mesures de rigueur, notamment concernant les retraites. On ne touche pas non plus à la sécu, au marché du travail. Blocage, compromis. Qui aura le dernier mot, Philippe Thiby?
Je pense que ça se décidera probablement à la fin du mois de mai, puisque selon les observateurs, le délai technique pour arriver à un accord et éviter les cessations de paiement en Grèce, c'est la fin mai, pour que l'accord soit réalisé. Et on ne sait pas ce qui se dit. Ce qui est très clair, c'est qu'en fait, les deux parties semblent camper sur leur position, c'est-à-dire que la Grèce propose une équipe de négociateurs plus acceptable d'un point de vue relationnel, mais ça ne change pas grand-chose sur le fond. Et l'Europe demeure inflexible, c'est-à-dire que le FMI a ouvert la porte à un rééchelonnement de la dette, ou en tout cas une annulation partielle de la dette, en disant, ce qui est mécaniquement vrai, que la consolidation, c'est la poursuite de la politique précédente, et garantit moins en fait un remboursement, hein, de la dette. Et ça, c'est le FMI qui le dit. L'Union européenne et la BCE ont immédiatement fermé la porte. Donc on est dans une situation. Moi, en février, j'avais écrit un papier qui s'appelait Grèce incapable, Europe inflexible. Je crois qu'on est toujours dans le même sujet, c'est-à-dire que la Grèce est incapable de négocier parce qu'elle n'en a pas le mandat pour commencer. Et donc je crois que si on doit évoluer vers une issue positive, il y aura probablement un référendum. En tout cas, il se passera quelque chose d'institutionnel en Grèce. Et en Europe, on est dans la situation que je décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est prisonnier de non pas d'institution, mais d'un accord minimal. Et l'accord minimal, c'est de ne rien faire.
La Grèce peut se retrouver à court de liquidité, en défaut, donc partir de mardi, François Hesbourg.
Peut-être pas mardi, mais vers la fin du mois de mai, début du mois de juin. Hein. Et la grande difficulté du côté grec,
en admettant que par ailleurs ils deviennent plus sérieux dans la négociation, parce que bon, il y a de vrais problèmes de compétences aussi. Hein.
Ils sont débarrassés de Varoufakis pour les négos, hein, déjà.
Oui, mais dans le Conseil des ministres, il y a quelques bras cassés qui sont impressionnants. Hein. Et le vrai problème de Tsipras, c'est que il a été élu non pas pour sortir la Grèce de l'euro, ça c'est plutôt bon. Mais il n'a pas non plus été élu pour faire les réformes qu'exigent les Européens. Donc, s'il va au référendum, sur la base d'un accord qui aurait été conclu avec les Européens, il y aura des tas de Grecs qui vont vouloir le punir, donc ils voteront contre. Et puis, il y a un nombre moins important de Grecs qui voudra manifester son euroscepticisme et qui votera également non. Et le tout ensemble, ça risque de faire plus de 50% des voix. Hein. C'est comme ça, les référendums. Hein. On ne vote pas forcément sur la question qui est posée.
Tout juste. Ben Aoudab Dedaïm.
Il y a l'idée qui émerge, c'est qu'on est, dans une parenthèse de gauche. C'est la formule qu'emploient certains conseillers d'Anthony Samaras, l'ancien Premier ministre conservateur. En gros, on les a laissés aller au bout de leur logique pendant quelques mois. Et effectivement, comme le décrivait François Hesbourg, cette gauche-là, Syriza, perdrait un référendum et nous reviendrions au pouvoir. Mais ce calcul reste extrêmement hypothétique. Et vous l'avez dit, il y a des échéances avec le FMI, il y a des échéances avec la Banque Centrale Européenne cet été de plusieurs milliards d'euros. Donc on n'aura pas le temps d'aller au bout de cette catharsis politique entre Grecs. Donc à un moment donné, ou bien c'est la zone euro et l'Union Européenne qui acceptent de changer finalement le cadre des négociations, où c'est ce gouvernement-là. Mais penser qu'on va aller jusqu'au bout d'un échange d'idées politiques, c'est trop tard. C'est trop tard.
Philippe Tibi, Pergamon Campus.
Non, mais l'issue positive, ce sera une ironie de l'histoire, c'est de revenir à un référendum, mais non pas sur les réformes, mais sur le maintien dans l'euro, parce que le maintien dans l'euro, ça voudra dire les réformes. Et c'est ce qu'avait proposé Papandreou à l'époque où il s'était fait gronder sévèrement par Nicolas Sarkozy en particulier. Donc c'est une ironie de l'histoire de revenir là, mais c'est le cœur du sujet. Et je pense que là, ce référendum est gagnable selon ces termes, qui sont moins humiliants que de revenir à la potion amère de la Troïka.
Avant 8h30, cette forte incertitude, mais apparemment, ce n'est pas ça qui a pesé sur le marché obligataire en fin de semaine, les taux d'emprunt d'État qui avaient grimpé nettement en zone euro avant de refluer légèrement. Philippe Tibi, qu'est-ce qui s'est passé ?
Non, mais il y a une très grande... D'abord, les taux sont à des niveaux anormalement bas, en tout cas historiquement. Il n'y a pas de normalité sur les marchés. Hein. Le marché dit le prix, donc il n'y a pas à savoir s'il a raison ou s'il a tort. Il fait son travail de commissaire-priseur. Le problème sur les marchés de taux aujourd'hui, c'est que il est frappé par deux choses. Un, une administration, entre guillemets, sur toute la courbe des taux, c'est-à-dire que les banques centrales fixent les taux courts comme elles l'ont toujours fait, et les taux longs sont arbitrés par les banques centrales également, dans le cadre, en tout cas en Europe, dans le cadre du programme de quantitative easing. Donc les investisseurs savent qu'en phase 2, il y a des poches extrêmement profondes avec lesquelles ils ne pourront pas gagner. Et deuxièmement, c'est très anormal, en tout cas, encore une fois d'un point de vue historique, il y a une très grande illiquidité sur les marchés de taux. Il y a très peu, il y a quelques emprunts d'État sur lesquels il y a une liquidité encore acceptable, mais la plupart des... Sur les emprunts d'entreprise, il n'y a plus de liquidité. Et sur un certain nombre de souches d'emprunts d'État, il y a aussi une très grande liquidité. Donc c'est un marché qui est très volatile, car il répond à des ordres, à des vendeurs déterminés ou à des acheteurs déterminés de façon très brutale.
Correction de courte durée ou phénomène plus long, justement? Certains voient davantage un choc obligataire qu'un crack obligataire. Philippe Tibi.
On n'en sait rien. Je pense que la théorie dit d'ailleurs qu'on ne peut pas prévoir ce que fera le marché. Ce qui est clair, c'est qu'on est dans une période qui est absolument anormale à tout point de vue, c'est-à-dire d'un point de vue des règles des marchés. C'est-à-dire que la règle des marchés vous dit que, et le bon sens économique vous dit que le taux d'intérêt à long terme, c'est la croissance plus l'inflation. Donc ce que vous dit le marché aujourd'hui, si vous croyez à cette règle, c'est qu'on est en déflation assez profonde, puisqu'il y a quand même un petit peu de croissance. Donc on est aujourd'hui dans des marchés qui ne fonctionnent pas bien, je crois qu'il faut le dire. Donc il peut se passer beaucoup de choses. Je pense qu'il y a toujours des gens qui sont là pour prévoir des cracks. Ils auront raison comme disait une méchante citation, même les horloges arrêtées ont raison deux fois par jour. Donc on ne sait pas ce qui se passera, mais on est dans un marché qui est un marché qui peut être dangereux pour ceux qui cherchent des gains rapides parce que il est très volatile.
Ben Aoud Abdedaïm, un mot, et puis juste après les infos de Anne-Sophie Balbir.
Ce qui est quand même marquant, c'est que cette hausse très prononcée des rendements, c'est partout dans le monde. Zone euro, Royaume-Uni, Japon, Suisse, États-Unis, etc. Donc, certains peuvent estimer que on est peut-être aux prémices d'un possible choc obligataire, voire d'un crack obligataire. C'est en tout cas une hypothèse qui est de plus en plus avancée.
On a une situation qui est dangereuse parce que les taux bas tuent l'économie. Les taux trop bas tuent l'économie. C'est-à-dire les compagnies d'assurance allemandes ne peuvent pas vivre avec ces taux-là. Aucune institution financière qui fait des promesses sur l'avenir ne peut vivre avec ces taux. Donc, revenir à la normale, c'est souhaitable. Ça se fera peut-être de façon désordonnée. Mais revenir à la normale, c'est d'avoir des taux longs qui seront à 2 ou 3%. Il y a 5 ans, on aurait été ravis avec des taux de cet ordre-là.
Bon, après 8h30, on va retrouver Philippe Thiby, Pergamon Campus, François Hesbourg, conseiller spécial de la Fondation pour la Recherche Stratégique, Ben Aoud Abdedaïm de BFM Business, on va écouter Anne-Sophie Balbir, et puis juste après, donc les 3 ans de présence pour François Hollande, le grabuge au Front National, et puis toutes les questions aussi, questions de société, l'esprit du 11 janvier, où en est-il, vous savez, cette vive polémique qui est née du livre d'Emmanuel Todd. À tout de suite sur BFM Business.
BFM Business, Good Morning Weekend, Fabrice Lundy.
À tout à l'heure, Anne-Sophie Balbir, qu'on retrouvera à 9h, puis à 9h, la seconde partie de Good Morning Weekend, pour revenir sur l'actualité internationale, actualité européenne. On reviendra largement aussi sur le scrutin britannique. La parade en cours également à Moscou, pour célébrer le 70e anniversaire de la capitulation nazie. On sera avec Jean-Luc Sauron, avec Vladimir Fedorovski. On continue donc ce matin, là, jusqu'à 9h, avec Philippe Thiby, avec Ben Aoud Abdedaïm, avec François Hesbourg. Et l'Europe qui connaît apparemment un vent d'optimisme selon les nouvelles prévisions économiques de Bruxelles, plus 2% en moyenne par an en zone euro, reprise assez forte en Allemagne, en Espagne, en Irlande, en France aussi, même si c'est un petit peu moins marqué, plus 1,1% en 2015. François Hesbourg, qu'est-ce qu'on fait de cet optimisme?
On va pas bouder son plaisir, ça fait longtemps que ça ne nous était pas arrivé, et l'année 2015 sera probablement l'année où la zone euro aura retrouvé son PIB de la fin de l'année 2007.
D'accord.
Donc nous n'aurons perdu que 8 années entières. On saluera la performance de 2015 et la contre-performance de 2007-2015. Première chose. Deuxième chose, il y a un aspect mécanique qu'il faut quand même pas perdre de vue, c'est qu'on peut remettre pendant un certain temps l'achat d'une nouvelle voiture, on peut remettre pendant un certain temps l'achat d'un nouveau frigo et ainsi de suite, mais il arrive un moment où les ménages finissent par craquer l'argent. C'est visiblement ce qui arrive par exemple dans l'automobile en ce moment. Et troisième observation, et elle est très paradoxale, et l'Europe va mieux au moment où le monde va moins bien. On est à contre-cycle relativement par rapport à la Chine, par rapport à la Russie, par rapport peut-être aux États-Unis. Et c'est curieux.
Philippe Thiby.
Oui, pour rebondir sur ce que vient de dire Françoise, dans cette période 2007-2015, l'Europe, c'est effectivement, en tout cas la zone euro, et c'est 0 plus. Les États-Unis, c'est entre 10 et 15, et la Chine, c'est plus 70, plus 75. Donc il s'est passé quelque chose et dont on va vivre les réverbérations pendant nombreuses années si on ne fait rien. Et la deuxième remarque, c'est, je reprends un calcul qu'a fait Jean-Marc Vittori dans les Échos, c'est que sur le 90% de la croissance qui est annoncé est dû à des chocs externes vertueux, donc essentiellement les bas prix de l'énergie et l'action de la BCE. Donc c'est bienvenu, ça ne dispense pas de faire le reste du travail.
Alors comment François Hollande va-t-il profiter de cette croissance qui repart en France? Le président de la République qui démarrait cette semaine sa 4e année à l'Élysée, 6 mai 2012, 6 mai 2015. Alors quel bilan? Tout dépend un peu qui parle. François Rebsamen, ministre du Travail, par exemple.
On est là, on a accompagné depuis toujours François Hollande, même quand il était très bas dans les sondages. Là, il n'est pas très très haut. On va continuer à l'accompagner parce que on croit que la politique que nous menons, ce gouvernement avec lui, elle va réussir pour notre pays.
Voilà, commentaire éclairé du ministre du Travail. À l'opposé, on a Laurent Wauquiez, député UMP de la Haute-Loire.
pour moi, le principal échec, c'est la feuille d'impôt. Parce que des Français qui sont pris à la gorge par les impôts, à l'arrivée, ils consomment plus. À l'arrivée, c'est de l'emploi qui est détruit. Et à l'arrivée, c'est le chômage qui ne s'inverse pas. Et donc, le principal échec de François Hollande, c'est cette feuille d'impôt.
Alors, ça, c'est Laurent Wauquiez. Puis, à l'autre bout de l'échiquier, Jean-Luc Mélenchon, c'était sur BFM TV et RMC.
On votait une loi sur le renseignement qui est pire que celle des États-Unis. Donc, même pour ça, ils sont bons à rien. C'est-à-dire bons seulement à faire quelque chose que je désapprouve absolument. Mais moi, je ne veux même plus polémiquer avec eux. Ils m'intéressent pas. Ils ont disparu du paysage. On sait ce qu'ils sont. Maintenant, tout le monde a compris. Je suis passé à autre chose.
Alors, pour les 3 ans de sa victoire, François Hollande prône la confiance, la protection, le progrès. Le chef de l'État qui était à l'étranger, qui vend des rafales, qui était l'invité d'honneur en début de semaine de l'Arabie Saoudite, il sera à Cuba en début de semaine. Il va à la rencontre des Français, des jeunes au Conseil économique et social mercredi, des collégiens jeudi avant-hier au Mureau avec des annonces sur le numérique à l'école, les Antillais depuis hier, la Martinique par exemple, aujourd'hui samedi. Il revient sur le terrain, il est en campagne, il restaure son image, il se projette sur 2017. Il y a François Hesbourg.
Oui, alors d'abord, c'est cette mode française récente d'ailleurs, parce que ça ne se faisait pas il y a 10 ou 15 ans, de déclarer qu'on va tirer le bilan du quinquennat ou du septennat au bout de 3 ans.
On aime bien ça. Ouais.
Honnêtement, je n'y comprends rigoureusement rien. Ça veut dire quoi ? Ça donne un marronnier de plus pour des journalistes en mal de copie. Oui. Mais en dehors de ça, ça ne sert à rien. Le rapport au réel, il est totalement absent. Donc déjà, l'exercice me paraît très douteux.
Malgré tout, dans la tête de François Hollande, quand même, il est engagé dans une stratégie. Les 3 premières années n'ont pas été bonnes. Il s'est écroulé dans les sondages. Il y a toujours beaucoup de chômage. Il se projette nécessairement, il essaye de corriger le tir pour les 2 dernières années, François Hesbourg. C'est pas une question de journaliste, c'est ça que je veux dire.
Ce ne sont pas les 3 premières années qui ont été désastreuses, ce sont les 2 premières. Parce qu'il a demandé aux Français, de manière réitérée, de le juger sur le retournement de la courbe du chômage avant la fin 2013. Il a dit 3 ou 4 fois solennellement, vous me jugerez là-dessus. Et les Français l'ont jugé là-dessus. Et depuis lors, il se promène entre 20 et 30%. Et la question est de savoir si dans les 18 prochains mois, ceux qui le sépareront du début de la campagne réelle des présidentielles, il saura faire oublier aux Français ou non le fait qu'il a prétendu réussir quelque chose qui était irréalisable, probablement, mais qui de toute façon n'était pas réalisé. L'histoire des 3 ans, encore une fois, sauf à faire parler de soi, ce qui en politique est toujours utile, hein, toute publicité, même mauvaise, est bonne à prendre. Il reste au centre du jeu, hein, d'une certaine façon, avec cette histoire des 3 ans. Mais en dehors de ça, ça sert à rien.
Est-ce qu'il peut rebondir ? Est-ce que le pire est passé pour lui, Philippe Thiby, donc François Hollande ? Est-ce qu'il a ses chances ? Qu'est-ce qu'il va devoir dire, montrer d'ici 2 ans ?
Je crois que il faudrait que l'économie fonctionne mieux. Mmh. Et effectivement, il a eu raison de changer de politique parce que dans les 3 ans, comme l'a dit François, il y a 2 périodes. Il y a avant Valls, après Valls. Avant Valls, il y a une mauvaise appréciation de la situation économique, le fait de penser que les cycles vont pourvoir à tous les bienfaits. Il y a aussi une mauvaise appréciation de la situation sociale, c'est-à-dire le fait de penser que l'économie prime tout et l'amélioration économique va résoudre les conflits et que des réformes sociétales vont rassembler les Français, ce qui a été malheureusement, pour des raisons d'exécution, je pense le contraire. Je pense que depuis que Manuel Valls est Premier ministre, il y a, sous l'impulsion de Emmanuel Macron, une politique économique qui est différente dans les signaux qui sont adressés aux entreprises, dans la fiscalité. Et il y a, je pense, un discours sociétal qui est recentré autour des notions de laïcité et de nation. Et ça, c'est très clair et c'est nouveau. Et je pense que l'enjeu pour... Le problème qu'aura François Hollande, c'est que sa stratégie de premier tour est orthogonale avec la politique de Manuel Valls. C'est-à-dire que la politique de Manuel Valls est assez bien reçue, en tout cas mieux reçue. Simplement, le problème de François Hollande, c'est de figurer au deuxième tour. Pour figurer au deuxième tour, il faut qu'il rassemble autour de lui toute la gauche et au-delà. Et toute la gauche et au-delà n'est pas aujourd'hui sur la ligne du Premier ministre. Donc à mon avis, c'est ça la difficulté. Et l'avenir, comme on dit dans les bonnes écoles, l'avenir tranchera sur les capacités de François Hollande à résoudre cette contradiction.
Benoud Abdadaïm.
Jeudi, j'ai posé la question patron d'une grande banque française en lui donnant un certain nombre de critères, en lui disant voilà, les taux obligataires, le baril de pétrole, les perspectives de l'INSEE sur l'investissement industriel, etc. Il m'a écouté poliment, puis il m'a dit, écoutez, tant qu'il n'y a pas 100 000 créations nettes d'emplois par trimestre, vos histoires ne nous intéressent pas. C'est le président d'une grande banque, hein. Je dis, c'est pas, voilà. Et donc, tant qu'il n'y a pas effectivement 100 000 créations nettes d'emplois par trimestre, tous ces anniversaires ne serviront à rien d'une part, et puis d'autre part, on a parlé au départ de David Cameron. David Cameron, dans son pays, les diplômés de l'enseignement supérieur, c'est-à-dire l'avenir, c'est 2,5% de taux de chômage. En France, c'est 3 points de plus pour les diplômés de l'enseignement supérieur. Ceux qui sortent de l'enseignement secondaire, également, l'écart est de 3 points. Donc il y a aussi un rappel sur le fait que si vous désespérez même vos diplômés, ceux qui sont susceptibles d'avoir le plus de chances de trouver de l'emploi. Voilà, des explications claires et effectivement très éloignées des indicateurs de l'INSEE ou des taux obligataires.
Alors dans les deux prochaines années, en effet, vous le disiez, il va falloir résoudre donc la question de l'emploi, les questions économiques, on aurait pu parler de la sécurité, l'environnement, les questions sociétales, nous disait Philippe Tibi. Question peut-être sur l'identité aussi, après notamment les attentats de Charlie Hebdo, le fameux esprit du 11 janvier tellement mis en avant par l'exécutif après la gigantesque marche qui avait rassemblé 4 millions de personnes en France. Donc, il y a cette polémique cette semaine avec le livre « Qui est Charlie ?» de l'essayiste démographe Emmanuel Todd, où il explique que la majorité de ceux qui avaient défilé l'ont fait en réalité pour des raisons égoïstes et xénophobes contre l'islam. Bref, une imposture. Réplique sanglante du Premier ministre Manuel Valls dans Le Monde, qui dénonçait à son tour les impostures d'Emmanuel Todd. Non, dit-il, cette manifestation fut un cri lancé pour la tolérance, pour la laïcité, un cri contre le djihadisme. Et puis, re-réplique d'Emmanuel Todd, qui hier matin sur BFM TV accusait le Premier ministre de pétinisme. Alors, juste, tiens, François Hesbourg, Philippe Tibi, Ben Aoud Abdelhaim. Oui, le pouvoir, il a trop souvent mis en avant ce fameux esprit du 11 janvier, on en a usé, abusé.
D'abord, Emmanuel Todd, lorsqu'il parle de faire la comparaison entre Manuel Valls et Philippe Pétain, je me demande vraiment ce qu'il a pu fumer. Bientôt, ils veulent comparer à Hitler ou à Staline. Il faut quand même peut-être pas trop prendre trop au sérieux des gens qui balancent j'allais employer un mot extrêmement trivial, des imbécilités pareilles, de manière extrêmement sérieuse. Deuxième chose, les sondages qualitatifs qui ont été faits après le 11 janvier ont montré quelque chose de très intéressant. Je suis pas sûr que Emmanuel Todd les relevait dans ses propres écrits. Il y a à peu près 4 millions de personnes qui avaient défilé, mais ce sont à peu près 3 fois plus de personnes qui disent avoir défilé. Autrement dit, une façon de dire si j'avais pu, j'y serais bien allé. Et à l'inverse, vous aviez effectivement à peu près un tiers de la population qui disait qu'elle n'était pas Charlie et qu'elle n'aimait pas ces manifestations. Dans cette partie-là de la population, vous aviez deux sous-populations. L'une, les gens proches du Front Nat, et l'autre, proches des islamo. Moi, je n'arrive pas à mettre en relation ce que disent les sondages qualitatifs faits immédiatement après les événements et ce que nous raconte Emmanuel Todd. C'est vrai qu'ayant été à la manif, je n'ai pas vu beaucoup de skins Jean Front Nat et je n'ai pas vu beaucoup de barbus en caloté. Ça, c'est exact. Pour le reste, j'ai trouvé que c'était une manifestation, pour parler du temps des gauchistes des années 60-70, une manifestation interclasse. Alors c'est peut-être ça qui fâche Emmanuel Todd.
Philippe Tibi, Pergabon Campus.
Je crois que Emmanuel Todd, comme souvent, il a des intuitions intéressantes, mais qui résonnent faux. Il résonne souvent faux. C'est-à-dire que je crois que le faux raisonnement, c'est de dire que c'est une imposture. C'est-à-dire quand il y a 4 millions de gens dans la rue en France, ça n'est pas une imposture.
Mais enfin, est-ce qu'on n'a pas abusé de l'usage du 11 janvier pour faire passer des réformes, pour appeler à l'unité, y compris dans la majorité?
Très franchement, ça n'a pas été fait de façon débridé. Je crois que c'est un mauvais procès. Là où il a une bonne intuition, c'est que il n'y a pas d'unanimité en France sur cette question, et il met le doigt sur le fait que la France est une république à vocation universaliste et que il y a beaucoup de signes qui laissent penser que c'est aussi une république en morceaux aujourd'hui, avec des noyaux qui sont pas importants mais qui sont structurés et qui refusent les valeurs de la République et qui aussi ont un soft power entre guillemets qui à travers Internet beaucoup plus que les mosquées, mais parce qu'il n'y a pas que c'est pas simplement des musulmans. Enfin, je pense que là le débat est parti sur des bases qui sont complètement fausses. Il y a beaucoup de gens qui sont perméables à au complotisme, à la négation des valeurs de la République, et ça existe. Et je pense que c'est une des vertus de l'action idéologique entre guillemets de Manuel Valls, c'est de le prendre en compte. Et c'est pas simplement au travers de la loi sur la surveillance.
Benaoud Abdedaïm.
Je suggère qu'un jour on fasse une heure pour qu'on m'explique ce que c'est les valeurs de la République, mais ça c'est un autre débat.
C'est liberté, égalité, fraternité.
Oui, mais enfin bon, ça fait pas une heure, c'est trois mots. Mais au-delà de ça, c'est typiquement le cirque médiatique. Le cirque médiatique dans lequel s'est enferré Emmanuel Todt. J'ai lu son entretien dans
Et
le Nouvel Observateur.
Manuel Valls aussi.
Oui, mais lui, il y est depuis longtemps. Enfin,
il a ce débat du philosophe, c'est ça que je voulais dire.
C'est-à-dire, j'ai lu son interview dans le Nouvel Observateur. Je n'ai pas lu son livre. Des arguments, des contre-arguments sur ce que dit Emmanuel Todt et pas sur ses intentions. Ça serait peut-être aussi intéressant. Et puis un dernier point, on peut entrer en parfait désaccord avec Emmanuel Todt, mais le réduire à un zozo. Non, enfin, je vous renvoie quand même à son premier livre de 1976 sur la décomposition de la sphère soviétique. C'est quand même, rien que pour ça, il mérite au moins le respect intellectuel, enfin du point de vue scientifique.
À tout de suite sur BFM Business à la radio, c'est Good Morning Weekend, la réforme du collège, grabuge au Front National. À tout de suite.
BFM Business Weekend. Good Morning Weekend. La double page info du week-end, Fabrice Lundy sur BFM Business.
Allez, good morning week-end, jusqu'à 9h, toujours pour nous accompagner François Hesbourg, Philippe Tibi, Benaouda Abdedaïm. Alors on parlait de ces tensions dans la société et crispation aussi autour des nouveaux programmes de la réforme du collège proposé par Najat Vallaud-Belkacem et âprement défendu par le président de la République venu au secours de sa ministre face à la levée de boucliers, alors à la fois d'intellectuels, d'une partie des enseignants, d'une bonne partie des députés de l'opposition et même de l'Allemagne. Au cœur de la polémique, alors l'affaiblissement supposé du latin et du grec, la suppression des classes bilingues et européennes en sixième, la simplification des programmes d'histoire et l'accent qui serait mis sur l'islam, critique que la ministre balaye en parlant d'intox. Alors, polémique justifiée, est-ce qu'on abandonne comme ça les filières d'excellence? Philippe Tibich.
C'est un débat qui est assez curieux, parce qu'effectivement ce qui est sous-jacent et qui n'est pas vraiment exprimé, mais c'est de dire que les filières d'excellence permettaient aux catégories sociales défavorisées d'accéder, ou plutôt d'éviter la médiocrité de l'enseignement général. Et donc c'est présenté comme un outil hostile à une reproduction sociale qui en fait est générale, une reproduction sociale, enfin qui elle est pas générale, mais elle caractérise le système d'enseignement français. C'est-à-dire que cette reproduction est assurée par deux voies, un par le privé et deux par la ségrégation spatiale, le fait que il y a des bons lycées qui sont dans les bons quartiers et auxquels accèdent les gens qui ont les moyens d'habiter ces quartiers. Et donc, à mon avis, c'est qu'on part sur cette base, on se trompe complètement. C'est-à-dire que pour moi, le problème de l'enseignement français, c'est qu'il y a 20% d'une classe d'âge qui sort sans qualification, sans diplôme, qui n'est pas employable, que ce qu'on dit très rarement, c'est qu'il y a une écrasante majorité de garçons dans ces 20%, ce qui est porteur de problèmes sociaux importants, et que il y a des raisons pour ça, qui sont bien identifiées, sauf apparemment par le ministère de l'Éducation, qui sont liées au refus de l'autorité, et de l'autonomie, parce que l'autonomie des établissements, hein, qui fait partie des objectifs de cette réforme, elle passe par l'autorité des directeurs d'établissement. Il n'y a pas d'autorité de directeur d'établissement aujourd'hui, et puis par l'affaiblissement ou l'effondrement du statut social des professeurs, qui sont non seulement mal payés par rapport à leur qualification, mais qui ne sont pas soutenus quand il y a des difficultés, d'où la propension bien connue du ministère de l'Éducation nationale à pousser la poussière sous le tapis quand il y a des difficultés. On l'a payé récemment. Donc je crois que il y a de la part des détracteurs de la réforme, il y a une vision fausse qui vise à sauver l'élite des pauvres entre guillemets grâce aux filières d'excellence, mais on rentre pas sur le cœur du sujet qui est les 20% des gens qui sont pas qualifiés. Et c'est une des différences avec la Grande-Bretagne qui a pas un système d'élite, mais qui sait intégrer tout le monde dans le marché du travail.
Ce qui est nouveau, François Hesbourg, c'est la variété de la contestation. C'est un point de tension à venir, un risque pour François Hollande qui semble ne pas vouloir reculer sur cette réforme.
C'est une réforme qui est très risquée et de la part de la variété des oppositions et par le risque de contagion vers le corps enseignant et vers les lycéens. On ne joue pas avec ça impunément, surtout à l'approche des échéances électorales. Et voilà, je me pose quand même la question, c'est-à-dire, bon Dieu, pourquoi cette réforme, qui est largement une réforme des programmes, a été poussée maintenant, alors que la vraie priorité, me semble-t-il, ce que disait Philippe, c'est qu'on a un corps enseignant qui est mal payé, mal considéré, mal motivé, alors qu'on a un budget de l'éducation qui n'est pas du tout médiocre. Et je ne pense pas que les Finlandais soient devenus les number one en matière d'enseignement public, essentiellement à travers une refonte permanente des programmes, hein, comme on en fait si souvent en France. Ils l'ont fait essentiellement en ciblant la population des enseignants et des directeurs d'établissements. Et quant à l'histoire de la suppression des classes bilingues, et ça, je n'ai absolument pas compris. Pourquoi on se livre à cette facétie avec un effet en ricochet vraisemblablement très élevé sur l'apprentissage de l'allemand. On a quand même intérêt à continuer à avoir une proportion substantielle d'élèves qui apprennent l'allemand. Hein. C'est 10-12% depuis pas mal d'années. Ce pourcentage, il va diminuer avec le nouveau système.
Benoud Abdadaïm.
Une statistique de l'OCDE, un professeur de l'enseignement secondaire en Allemagne gagne 30% de plus que son homologue en France. Et l'allemand travaille moins que le français. Donc c'est vous dire, effectivement, l'écart, l'importance de l'écart.
Philippe.
En Finlande, effectivement, les professeurs enseignants, une profession d'élite. Et ce qui caractérise, je crois, l'enseignement finlandais, c'est qu'on ne se préoccupe pas de fabriquer des élites, précisément, et on travaille pour tout le monde. Alors, ce qui me semble caractériser les classes françaises, c'est que on travaille pour les meilleurs, les mauvais sont restés à l'abandon, et devraient pas probablement être dans le système tel qu'il est aujourd'hui. Et le ventre mou, celui qui a besoin d'un professeur, est un petit peu délaissé.
Pour terminer sur tous ces sujets de tension, cette page qui se tourne aussi au Front National cette semaine avec la décision spectaculaire du bureau exécutif et Marine Le Pen de retirer au père fondateur Jean-Marie Le Pen sa qualité d'adhérent.
J'exprime une opinion politique depuis 60 ans dans ce pays. Par conséquent, Marine Le Pen n'est pas censée ignorer la psychologie et la pratique de son père, non ? Bon, voilà. Seulement, elle a oublié ça. Mais on dit que l'ingratitude est la vertu des rois. Comme elle est la reine de Thèbes, c'est bien normal.
Alors qu'est-ce que ça traduit à vos yeux? Quelles conséquences de cette rupture? Qu'est-ce qu'elle a voulu montrer, Marine Le Pen? Philippe Thibich.
Elle a voulu montrer qu'elle était un parti du gouvernement, donc elle expulse l'auteur des scories dommageables, mais je pense que ça ne change pas le problème de sa stratégie, qui est une stratégie de refus d'alliance en réalité, et avec cette stratégie, elle ne pourra pas arriver au pouvoir.
François Hesbourg.
Sauf s'il y a un effondrement de la France.
Ce que je ne sais pas du tout évaluer, ça va être l'ampleur des problèmes et des dégâts qui seront provoqués au Front National par cette rupture, parce que c'est une vraie rupture. C'était effectivement un parti qui a été créé par et pour Jean-Marie Le Pen, et avec son ADN qui est partout dans l'organisation. Et il ne suffit pas de changer quelques têtes pour se débarrasser de cet ADN. Donc elle a pris un immense pari. Si elle le gagne, elle arrivera peut-être à casser le moment venu le plafond de verre, hein, ça reste à voir. Mais je ne sais pas si elle va réussir son pari. Hein,
Alors avant de retrouver Vladimir Fedorovski et Jean-Luc Sauron pour la seconde partie consacrée à l'international, retour juste, parce qu'on va en profiter d'avoir François Hesbourg avec nous, retour sur la visite en début de semaine de François Hollande venu au Qatar, signer l'achat par l'Émirat de 24 Rafales. Et puis le lendemain en Arabie Saoudite, où le président français était l'hôte d'honneur du Conseil de coopération du Golfe. Vous savez, Arabie Saoudite, Bahreïn, Koweït, Émirat, Oman, Qatar. C'est une première pour un chef d'État occidental depuis la création de ce CCG il y a une trentaine d'années, où il était question d'ailleurs de contrats pour plusieurs dizaines de milliards. François Hollande.
Il ne s'agissait pas d'annoncer des contrats pour des contrats. C'était d'ailleurs contraire à ce que je viens d'affirmer ici. Nous sommes là pour définir un partenariat durable, stratégique et qui puisse couvrir des domaines nombreux. La défense étant l'un d'entre eux, mais pas le principal d'entre eux.
Pourquoi là, la France, elle peut avancer comme ça, ses pions économiques, diplomatiques dans le Golfe? Pourquoi François Hollande fait-il figure de chouchou, d'allié fiable quelque part? François Hesbourg, juste avant 9h.
Par contraste avec le partenaire, de toute évidence, moins fiable, qui
américain.
Est à Washington. La France est perçue comme ayant eu une ligne beaucoup plus ferme dans la négociation avec l'Iran. Et je crois que c'est assez vrai. Et la France a été perçue comme ayant été sérieuse par rapport aux États-Unis lorsqu'il y a eu l'utilisation des armes chimiques par la Syrie en 2013. C'est bien d'être désiré, c'est mieux d'être désiré que d'être rejeté. Ça nous change aussi parfois de ce qui est arrivé dans le passé. Un bémol quand même, l'Arabie Saoudite. Et la France n'a pas conclu de gros marchés de souveraineté avec ce pays. Un marché de souveraineté, c'est un marché où c'est, ça va être l'armement, mais en général, tout ce qui implique une intervention majeure de l'État, le vente d'avions de ligne, rentre aussi dans cette catégorie, par exemple. Et on n'a pas conclu de grands marchés de ce type depuis 20 ans. Depuis le passage de relais entre Balladur, Premier ministre, et Chirac, président de la République, la campagne des présidentielles, tous les épisodes à plus ou moins sordides qui relèvent de la rubrique criminelle et politique plutôt que de la grande politique internationale. Mais le fait est que on n'a pas fait grand-chose depuis 20 ans en Arabie Saoudite. François Hollande, il m'impressionnera vraiment s'il arrive à changer cet état de fait. C'est plus difficile et c'est plus important que de réussir la vente des Rafales au Qatar, qui est d'ailleurs très bien.
Attitude risquée ou pas pour la France de se rapprocher ou d'être séduite par l'Arabie Saoudite au moment où l'Iran revient dans le concert international, concert économique peut-être aussi à terme, Ben Aoud Abdedaïm, ça sera le mot de la fin, je pense.
Maintenant, le choix est clair et net, donc advienne que pourra de ce point de vue-là. Mais aussi, il faut prendre un autre point en considération, c'est que l'Arabie Saoudite, ça peut être eu payé aussi, parce que lorsque j'ai vu un rapport d'une société de gestion d'actifs qui s'appelle Jadwa, déficit public prévu pour cette année 15%, déficit courant 4%, les réserves de change qui vont passer sous 700 milliards de dollars, etc., etc. Donc peut-être que c'était bien que ça soit il y a quelques années pour toucher l'argent.
Tout à fait d'accord.
Voilà. Bon, merci à tous les trois. Philippe Thiby, président fondateur de Pergamon Campus, François Hesbourg, conseiller spécial de la Fondation pour la Recherche Stratégique, Ben Aoud Abdedaïm, éditorialiste économique à BFM Business. On va écouter Anne-Sophie Balbir, les infos de 9h, et puis je reviens dans 3 minutes pour la seconde partie de Good Morning Weekend. On reviendra sur l'élection britannique, le triomphe de Cameron. On reviendra sur les 70 ans de la capitulation nazie avec cette parade en cours donc ce matin à Moscou. Donc on sera avec Vladimir Fedorovski et Jean-Luc Sauron. Bonne matinée, je reviens tout de suite.